BW. Vue d'Allemagne.
L'Allemagne est souvent présentée comme un modèle pour son système de tri des déchets, mais où vont les plastiques et emballages que l'on jette dans sa poubelle jaune? Une bonne partie atterrit en Turquie, officiellement pour y être recyclée. On va voir que ce n'est pas si évident. Dans la deuxième partie de Vue d'Allemagne, on vous emmène dans le sud de la Tunisie à la rencontre de jeunes désespérés qui bloquent les sites industriels dans l'espoir de se faire entendre. Ce sera un reportage d'Amira Swilem. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro, willkommen et bienvenue. De nombreuses personnes se pressent autour du camion de recyclage de la municipalité du quartier de Zeytinburnu à Istanbul. Depuis la mi-novembre, les citoyens peuvent apporter ici leurs déchets ménagers triés, matériaux d'emballage, plastique, papier, métal, huile végétale ou encore déchets électroniques. En échange, ces trieurs de déchets reçoivent des points sur une carte qui leur permettent d'effectuer des achats dans 12 magasins participants. Hava Akas, 57 ans, est heureuse de profiter de cette offre.
Je me suis toujours souciée de l'environnement. Quand j'ai entendu parler de ce projet ici à Zeytinburnu, j'ai commencé à collecter les emballages et à les apporter ici.
Les matériaux déposés sont recyclés, du moins, c'est ce qu'on dit. En plus de ces déchets locaux, la Turquie importe des milliers de tonnes de déchets d'autres pays. Car la Turquie manque cruellement de matières premières, explique Serhat Maden. Il travaille pour l'Association des entrepreneurs de recyclage de papier.
La Turquie ne dispose pas de la matière première nécessaire pour fabriquer des produits dérivés du pétrole à l'import. Ces matières premières de l'étranger, cela coûte cher, mais il est possible de créer ce qu'on appelle les matières premières d'occasion à partir de matières recyclables. C'est pourquoi nous considérons l'importation de matières recyclables en Turquie et leur réutilisation comme une chance.
Depuis quelques années, la Turquie est devenue la destination principale des déchets plastiques en provenance d'Europe. L'Allemagne en profite largement. En 2017, elle exportait 18 000 tonnes de déchets d'emballage vers la Turquie. Deux ans plus tard, ce sont 67 000 tonnes de déchets qui sont arrivées en Anatolie, officiellement pour recyclage. Mais selon Sedat Gündoğdu, chercheur à l'université Kukurova à Adana, dans le sud de la Turquie, le processus de recyclage n'est pas transparent. En principe, la Turquie ne devrait importer que des déchets propres. Mais ce n'est pas ce qui se passe.
Les exportateurs mélangent du plastique propre à du sale. Ils forment des balles qui sont composées de plastique propre à l'extérieur et les remplissent de déchets sales. C'est pour cela qu'entre 30 et 50% du plastique importé n'est pas pur.
En d'autres mots, ces déchets ne sont pas recyclables. Au lieu de ça, ils sont brûlés, la plupart du temps à proximité de cours d'eau et de rivières. Le biologiste Sedat Gündoğdu a observé un autre phénomène. Ces deux ou trois dernières années, une bonne centaine de centres de stockage de déchets importés sont partis en fumée. Les causes des incendies sont restées obscures. Pour Serhat Maden, de l'Association des entrepreneurs de recyclage de papier, il ne s'agit que de moutons noirs qui nuisent à la profession. Selon lui, le recyclage fonctionne à grande échelle.
Les déchets de papier sont par exemple utilisés pour fabriquer du carton, les bouteilles en plastique servent à faire des fibres, de la ouate artificielle et des tricots. Et le plastique est recyclé en granulés et revendu comme matière première.
Mais le recyclage pose lui aussi des problèmes, estime au contraire Sedat Gündoğdu de l'université Kukurova. Les entreprises ne respectent pas les standards de protection de l'environnement.
Elles écrasent et broient le plastique pour en faire des granulés. Ensuite, c'est lavé et l'eau contenant le reste des particules de plastique va directement dans la rivière ou dans une station d'épuration qui n'est pas faite pour ce genre de déchets. À la fin, tout ce microplastique finit dans la mer.
Le chercheur appelle à stopper complètement les importations de déchets. Selon lui, ce serait aussi plus honnête vis-à-vis des consommateurs allemands.
L'Allemagne a vraiment un bon système de tri des déchets, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il après? Tous ces déchets triés atterrissent en Malaisie ou en Turquie.
ends up in Malaysia and Turkey.
L'association Greenpeace estime elle aussi que la forte hausse des déchets plastiques en provenance d'Allemagne est un poids trop lourd pour la Turquie. Le ministère turc de l'Environnement a d'ailleurs décrété au début de l'année qu'au moins la moitié des besoins en déchets recyclables devraient désormais provenir de Turquie. Des projets comme celui du quartier de Zeytinburnu peuvent y contribuer. Avec les points qu'elle a gagnés, Hava Akas vient d'acheter du riz, des lentilles, du boulgour, des œufs, du beurre et du lait.
Plus encore que d'en tirer de l'argent, ce qui est important, c'est que notre pays cesse d'être pollué et que les déchets soient recyclés.
Mais elle ne sait pas que ces déchets finiront probablement dans la nature. La Tunisie commémore ce mois-ci les 10 ans de sa révolution, mais le cœur des Tunisiens n'est pas vraiment à la fête. Aucune grande célébration n'a eu lieu dans le pays à cette occasion. La faute au coronavirus qui fait tourner la vie au ralenti, mais aussi surtout à la situation économique. Car depuis la révolution, la Tunisie a connu des attentats à répétition, la chute des revenus touristiques et l'endettement massif du pays. Aujourd'hui, ce sont surtout les jeunes qui font les frais de cette situation économique détériorée. Sans espoir et souvent sans travail, certains d'entre eux ont bravé le couvre-feu nocturne pour caillasser la police et faire entendre leur mécontentement. Ces troubles nocturnes sont très médiatisés, mais il y a un autre mouvement de protestation qui passe plus inaperçu à l'étranger. Il s'agit de ce que les Tunisiens appellent les blocages. Des centaines de sit-ineurs bloquent ainsi l'accès aux sites stratégiques du pays, pétrole, hydrocarbures, phosphates, pour tenter de se faire entendre du gouvernement. Amira Swilem s'est rendue dans le sud du pays à la rencontre de ces jeunes hommes qui ont planté leur tente à l'entrée du site industriel de Chkira. Voici son reportage.
Tempête de sable et température glaciale, à Srira au sud de Sfax, l'anniversaire de la révolution a un goût amer. Une décennie, l'âge du soulèvement, pour Emine, c'est surtout la durée depuis laquelle il cherche du travail. Technicien industriel de formation, ce jeune trentenaire n'en trouve pas, ses amis sont dans la même situation. Ensemble, ils ont décidé d'opter pour la méthode forte pour se faire entendre du gouvernement.
Pour bloquer le site industriel, on se met à ce niveau-là de la route. On a bloqué les entrées vers l'usine d'hydrocarbures 5 fois en tout. Au bout d'une semaine de blocage, une pénurie de carburant se fait sentir. C'est à ce moment-là que les autorités viennent nous voir pour négocier. Dans ces cas-là, on dit « Ok, pas de problème, on rouvre la route et on va négocier ». C'est devenu une sorte de jeu.
Un jeu qui ne fait pas vraiment rire Emin. Des négociations avec les autorités dépend son avenir.
J'ai 30 ans, quand est-ce que je vais enfin commencer à travailler, me marier, mettre de l'argent de côté, avoir une famille? On se pose tous ces mêmes questions ici.
Tous ici ont l'impression de voir leur vie leur échapper. Plus qu'un travail, ils semblent avoir aussi besoin d'une oreille attentive. Au coin du feu, ou sous les tentes, aux abords de la zone industrielle, dans les émanations de rejets chimiques, ces hommes passent de longues heures à échanger entre eux.
Ces bloqueurs, désormais, ce sont mes frères, vraiment. C'est vrai que parfois on débat durement, mais on ne se dispute jamais. Et j'insiste là-dessus, c'est désormais ma deuxième famille. J'aimerais tellement que nos problèmes se résolvent maintenant.
Ensemble, ces diplômés chômeurs, comme on dit ici, ont eu le courage nécessaire pour bloquer l'accès aux sites stratégiques de leur région. Srira compte des usines d'hydrocarbures, mais aussi de transformation du phosphate. Emine et ses amis ne supportent plus de voir passer au quotidien ces énormes camions qui vident, selon eux, leur région de ses richesses naturelles, sans rien apporter en retour.
On nous méprise, on n'a rien, pas de soins, pas d'assurance maladie, pas d'hôpital.
Depuis le départ de Ben Ali, c'est pire, on est de plus en plus pauvres.
10 ans après la révolution, le temps des manifestations semble désormais révolu. Voici venu le temps des blocages et du chantage à l'État. Le jour de notre reportage, les bloqueurs se concertent sur la feuille de route qu'ils vont proposer aux autorités. Malgré le froid, leur détermination semble inébranlable.
On avait demandé 2000 emplois, mais pourquoi 2000? Demandons plus pour être sûr d'avoir ce qu'on veut.
Oui, tu as raison. Demandons 3000 emplois plutôt.
Oui, c'est ça. Allez, on demande 3000 emplois.
Faire chanter le gouvernement, la méthode est désormais rodée en Tunisie. En novembre dernier, après des semaines de blocage d'une zone pétrolière, des bloqueurs de Tataouine obtiennent gain de cause auprès du gouvernement qui leur promet 1000 emplois et 80 millions de dinars pour la région s'ils lèvent le sit-in. Depuis cette victoire, les blocages essaiment dans tout le pays. Emine et ses amis rêvent d'une victoire similaire, eux qui se relaient jour et nuit sur le campement de Srira. Smartphone en main, Emine irrigue au quotidien les réseaux sociaux de leurs nouvelles.
Comme toujours, je commence cette vidéo en filmant le drapeau de la Tunisie, ce drapeau qui nous est cher. Notre mouvement de protestation continue.
Au-delà de la nécessité d'informer, ces comptes rendus quotidiens cherchent aussi à gagner la sympathie des riverains et des citoyens. Au plus fort du mouvement des blocages en décembre dernier, une dizaine de sites étaient à l'arrêt en Tunisie, entraînant d'importantes pénuries de gaz et d'hydrocarbures dans la population. De quoi agacer des foyers tunisiens déjà bien affectés par la crise économique et la pandémie.
Je veux que nos concitoyens nous pardonnent. Je veux qu'ils comprennent que nous n'avons pas d'autre choix. Le citoyen lambda ne comprend pas spécialement ce qu'il se passe. Il va au kiosque et ne trouve pas de carburant et ça l'énerve. Il n'a pas spécialement conscience de nos problèmes. Pour lui, nous sommes des voyous qui faisons des problèmes. Tout ce qu'il veut, lui, c'est faire son plein.
Ce blocage est la solution de dernière chance pour certains ici.
Si ce blocage ne donne rien, moi personnellement, je partirai illégalement pour l'Europe. Pas le choix.
Face à cette stratégie de blocage qui va crescendo, des sociétés étrangères menacent désormais de quitter le pays. Pris en étau, le gouvernement tunisien devra déminer au plus vite la situation sous peine de perdre des investissements étrangers devenus aussi rares que précieux. Amira Suilem, de retour de Srira pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci à Christiane Boutkereit pour le reportage sur les déchets allemands en Turquie, ainsi qu'à Amira Suilem pour le reportage sur les blocages en Tunisie. Merci aussi à vous de nous écouter toujours fidèlement. La semaine prochaine, ce sera Hugo Flotatalon à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !